Chapitre 1. Missile pour le salut des autres. Y a-t-il un rapport entre la prière pour quelqu'un et son salut? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Je demande, en tout premier lieu, que l'on prie, qu'on intercède pour tous les hommes. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. 1 Épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Selon son habitude, l'apôtre pratique ce qu'il enseigne. Chers amis, je souhaite de tout mon cœur que mes frères israélites parviennent au salut, et je le demande instamment à Dieu. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 1. Il affirme sans embâge la même conviction devant ses juges. Qu'il faille peu ou beaucoup de temps, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. Actes, chapitre 26, verset 29. Le Nouveau Testament répond donc indéniablement oui à cette question. Les premiers chrétiens recevaient cet enseignement dès leur conversion. Sa mise en pratique était comme le charbon dans la locomotive de la propagation de l'Évangile. Au XIXe siècle, en période de réveil, certains pêcheurs notoires apprenaient que les chrétiens avaient commencé à prier pour leur salut. Dans les jours suivants, malgré leur méfiance, bien peu résistaient à la conviction de l'esprit qui les saisissait. Plus récemment, durant la guerre du Vietnam, un aumônier réunit les soldats qui l'avaient amené à Christ. Ceux-ci décidèrent de prier, dans la ferveur et l'unité, pour le salut de leurs épouses restées aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, plusieurs reçurent une lettre de ce type. « Mon chéri, un événement incroyable vient de se produire dans ma vie. J'étais en train de faire la cuisine. C'était un matin, pareil aux autres, quand soudain j'ai vu ma vie comme si Dieu lui-même me la montrait. J'ai compris que j'avais vécu égoïstement, sans tenir compte de son existence. Je me suis senti sale et coupable, puis j'ai compris qu'il voulait me pardonner et prendre ma vie en main. J'ai donné ma vie à Christ et c'est merveilleux. Je ne sais pas comment tu prendras cela. Sache simplement que je t'aime plus que jamais. » Ces récits m'ont personnellement enthousiasmé. Ils posent aussi une question fondamentale. Le salut est-il irrésistible? Ses épouses avaient-elles encore la liberté de le refuser? Prenons l'exemple de votre plat préféré. Si vous aviez le choix entre ce dernier et une pitance nauséabonde, que choisiriez-vous? Certainement que, pour la première fois de leur vie, la boue du péché n'était plus comparée à l'esprit de ce siècle, mais se trouvait sous les projecteurs de la sainteté de Dieu. Elles avaient simplement l'immense privilège de bénéficier de l'intercession d'une équipe convaincue. Elle n'était pas obligée de se convertir, et il est malheureusement probable que toutes ne l'ont pas fait. Mais elles ont compris la vérité sur leur propre état sans Christ. En fait, le voile qui les empêchait de voir briller la splendeur de l'Évangile et de ressentir l'amour inconditionnel de Dieu a été déchiré, conformément à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Les raisonnements anti-Christ qu'elles entretenaient ont été dévoilés et abattus spirituellement, conformément à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Les anges qui sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut se sont mis à l'action sur l'ordre de celui qui était invoqué, Dieu lui-même, conformément à l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Il est vrai, comme ce fut le cas pour une partie des habitants de Jérusalem, sur laquelle Jésus a pleuré en son temps, qu'il existe encore aujourd'hui des gens qui, face aux bras ouverts de Christ, s'enferment dans leur orgueil et leur méchanceté. Mais d'autres personnes, des multitudes, reçoivent et recevront l'amour de Dieu avec une immense gratitude quand il leur sera révélé. Si Dieu n'oblige pas les hommes à se convertir, quelle peut donc être ma certitude en priant pour leur salut? Celle que Dieu est pleinement d'accord avec ma prière. et qu'il travaille activement pour se révéler, convaincre et attirer ces personnes à lui. L'homme est libre mais contagieux. Le monde contemporain a donné naissance à une mentalité tellement individualiste que nous avons du mal à concevoir les lois concernant l'impact que notre obéissance ou notre péché peut avoir sur une tierce personne, un groupe ou toute une société. Il est vrai que chaque individu rendra compte de sa propre vie et de son acceptation ou non de la grâce. Mais Dieu juge aussi les villes, Matthieu 11, versets 20 à 24, et les nations, car le péché aussi bien que la sainteté, sans pour autant s'imposer aux autres, sont contagieux. Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève, mais par la bouche des méchants, elle est renversée. Proverbe 11, verset 11. Pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation. L'injustice est la honte d'un peuple. Proverbe 14, verset 34. Du point de vue négatif, il est simple de comprendre ces influences quand nos journaux titrent, par exemple, « Une fillette de 2 ans est fauchée par un automobiliste ivre ayant perdu la maîtrise de son véhicule. » Le cas le plus difficile à assumer est l'entrée du péché dans le monde par nos premiers parents, Adam et Ève. De même que la désobéissance d'un seul a rendu beaucoup d'hommes pécheurs, de même l'obéissance d'un seul rendra beaucoup d'hommes justes devant Dieu. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19. Une bénédiction contagieuse pendant 40 000 ans. Qu'en est-il de l'influence positive? Dieu aurait-il des lois spirituelles à sens unique? Bien sûr que non. Nous venons de le lire. On mentionne souvent le péché qui est puni durant 3 ou 4 générations, mais on oublie de parler de la bénédiction qui subsiste jusqu'à 1000 générations pour ceux qui aiment Dieu et lui obéissent. Conformément au Deutéronome, chapitre 5, verset 10. Pouvez-vous imaginer, si ce monde existe encore, que des personnes soient bénies dans 25 ou 40 000 ans par votre obéissance actuelle? Si cette promesse ne se réalisait pas selon la chair, faute de temps, elle peut se réaliser selon l'esprit, c'est-à-dire par nos enfants spirituels. Cette interprétation semble rejoindre nombre de passages bibliques où les apôtres établissent le lien entre les promesses de multiplication des descendants d'Abraham dans le temps et l'espace avec la propagation de l'Évangile sur toute la terre. Galates chapitre 3, versets 6 à 13, est passage parallèle. Depuis que je l'ai compris, je prie pour que ceux que j'amène à Christ soient féconds et aient des enfants spirituels qui, à leur tour, enfanteront, et cela jusqu'à 1000 générations. Cette promesse-là peut évidemment se dérouler sur une période bien plus courte. Si vous n'avez jamais prononcé cette prière, pourquoi ne pas le faire à l'instant? Une épidémie de conversion. En 1990, un bateau a apporté le virus du choléra au Pérou. En l'espace de 3 semaines, 10 000 personnes étaient infectées. Mon rêve et ma prière sont que des épidémies de conversion éclatent et se propagent tout autour de notre planète. Une lettre reçue dernièrement du Burundi m'a beaucoup encouragé. Elle illustre la saine contagion dans l'espace et le temps à laquelle Dieu nous convie. J'ai 26 ans et j'ai appartenu au mouvement Rasta pendant des années. Le 10 mai 1993, mon professeur m'a parlé d'un certain Carlo Brugnoli qui viendrait le lendemain prêcher à Bujumbura. Quand j'ai entendu cela, j'en ai eu mal à la tête, car je n'aimais pas les Blancs. J'avais préparé une boum pour le 11 mai dans mon quartier. Mais tout en dansant, j'étais troublé. Le lendemain, ce fut pareil. Le 13, je me suis renseigné pour savoir où se trouvait l'évangéliste. Arrivé là-bas, vous avez répondu à toutes mes questions. Vous avez témoigné de Carl Lewis, et comme j'étais moi aussi un sportif reconnu au Burundi, j'ai compris que Jésus pouvait pareillement me sauver. À l'appel, j'étais là, pour pour lui donner ma vie, espérant que Dieu m'utiliserait un jour comme vous. Après ma conversion, Dieu m'a guidé dans une école biblique qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, je suis évangéliste et enseignant de la parole de Dieu. J'ai fait des campagnes d'évangélisation partout dans Bujumbura. Et je m'occupe des nouveaux convertis dans mon église chaque mardi. Terence Nijimbere. Chaque être humain a donc l'immense privilège et la lourde responsabilité d'influer non seulement sur ses contemporains, l'espace, mais aussi dans le temps. Quand un homme commence à aimer Dieu, la chaîne de malédiction est brisée. Elle fait place à une bénédiction qui peut durer des milliers d'années. Par l'Évangile, Dieu désire toucher les hommes en aussi grand nombre que les étoiles du ciel et les grains de sable sur le bord de la mer. Genèse 22, verset 15, Galates 3, verset 7 à 9. Il agit pour cela de plusieurs manières. Par sa création, par la conscience du bien et du mal, et par la pensée de l'éternité, il donne à tous les hommes un témoignage de lui-même. Romains 1, verset 19 à 20. Par l'œuvre de Christ, conciliant son amour et sa justice, il leur offre à tous le pardon, conformément à Romains 11, verset 32. Aujourd'hui, il choisit de tenir compte de l'intercession de son peuple pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Dans son impartialité, Dieu s'est réservé le droit d'être généreux quand ses enfants le prient. Sa grâce n'est pas réservée à ceux qui la méritent, mais à ceux qui la demandent. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as dit. Nombre 14, versets 19 à 20. Nous allons étudier, dans ce chapitre, 6 principes bibliques qui pourront enrichir et inspirer notre vie cachée d'intercession pour les inconvertis. 1. Rien n'est impossible à Dieu. Un chrétien anglais priait depuis 9 mois pour la conversion de son voisin sans voir le moindre signe de changement. Dieu lui en fit comprendre la raison. « Tu es sûr que de toute façon ton voisin ne se convertira jamais ?» Il le reconnut humblement. « Mais que faire ? Abandonner ?»« Que peux-tu croire ?» lui demanda le Seigneur. En y réfléchissant, il réalisa qu'il n'avait encore jamais adressé la parole à son voisin. Il pria donc que, dans la semaine suivante, Dieu suscite une conversation entre eux. Cela, il pouvait le croire. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaillait au jardin, son voisin sortit pour faire le même travail, et tout naturellement, le dialogue s'engagea par-dessus la haie. Ce petit encouragement incita notre ami à appliquer le même principe pour la semaine suivante. « Que puis-je réellement croire ?» Il demanda dans sa prière le privilège de rendre service à son voisin. Le mercredi, on sonna à la porte. « Ma tondeuse à gazon est tombée en panne, puis-je emprunter la vôtre ?» Pour un peu, le chrétien en aurait sauté et dansé de joie. Mais, avec une parfaite maîtrise de soi, il se contenta de prêter sa tondeuse. La troisième semaine, il se dit qu'il y avait quand même plus que du hasard dans ce qu'il vivait, et s'enhardit à faire une nouvelle bouchée de foi. « Seigneur, agis, afin que mon voisin accepte de venir prendre le thé chez moi. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le voisin, pour la première fois, passa le seuil de la porte. La quatrième bouchée de foi fut cruciale. « Seigneur, accorde-moi de lui parler de toi au cours de la semaine. » Les deux hommes se retrouvèrent bientôt chacun à son jardin. « Que faites-vous donc tous ensemble dimanche matin ?» s'enquit le voisin. « Je vois toujours votre famille au complet s'engouffrer dans la voiture. » Dès lors, il ne fut pas difficile de parler du culte, et une conversation intéressante en découla. La cinquième semaine, le chrétien pria, puis invita et emmena son nouvel ami à une rencontre spirituelle. La sixième semaine, il intercéda pour que celui-ci passe des ténèbres à la lumière, et du royaume de Satan au royaume de Dieu. Son voisin se convertit à Jésus-Christ. Cette histoire authentique souligne une vérité aussi simple qu'essentielle. Dieu s'est engagé à répondre à notre foi, non à notre incrédulité. Un évangéliste demanda un jour à son auditoire : Comment fait-on pour avaler un éléphant ? Tout le monde savait que la chose était impossible, jusqu'au moment de la réponse : Il suffit de le couper en petits morceaux. Vous priez depuis des années peut-être pour la conversion d'un membre de votre famille ou d'un ami, mais vous avez vraiment l'impression de devoir soulever un éléphant. En fait, ne pensez-vous pas secrètement que, de toute façon, il ou elle ne se convertira jamais? Si c'est le cas, recommencez aujourd'hui avec la bouchée de foi que vous pouvez croire en vérité, et l'éléphant commencera à diminuer. Prenons l'exemple d'un cas particulièrement ardu et laissons Jésus nous en parler. C'est qu'il est difficile à ceux qui ont de la fortune d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'entendaient s'écrièrent : Mais alors, qui peut être sauvé ? Jésus leur répondit : Ce que les hommes jugent impossible, Dieu peut l'accomplir. Évangile de Luc, chapitre 18, versets 26 à 27. 2. Renverser les raisonnements. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. L'Esprit de Dieu sonde tout, il connaît tout. Il sait quels sont les raisonnements qui se sont installés dans la personne inconvertie, la maintenant loin de Christ. C'est votre privilège d'intercesseur que de recevoir la pensée du Seigneur à ce sujet, puisqu'il dit lui-même : Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Le ferment de ces raisonnements peut être l'orgueil, la religiosité, l'incrédulité, l'endurcissement, l'incompréhension, la méfiance, l'individualisme, mais aussi des choses plus nobles en apparence comme la réputation, telle ou telle éducation, culture ou philosophie. Pour ma part, c'était la timidité qui interdisait à l'adolescent de 14 ans que j'étais d'assister aux réunions chrétiennes dont on me parlait. Heureusement, plusieurs priaient déjà pour moi, et peu de temps après, je découvrais à mon tour une vie abondante en Christ. Un jeune homme de famille chrétienne de la région parisienne était tombé dans le piège de la drogue. Il cessa d'étudier, de se laver. Il devint maigre et dangereux. Les habitants de son immeuble signèrent une pétition pour qu'il en soit expulsé. Il était sur le point de partir sur la route du Liban, quand son père et le pasteur Maurice Ray prirent position dans la prière, afin de renverser le mur de séduction qui tenait cet adolescent sous cette emprise anti-Christ. Quelques semaines plus tard, la drogue passait à la poubelle, et ce jeune homme allait, de sa propre initiative, rendre les objets volés dans les boutiques du quartier. Aujourd'hui marié, il est l'heureux père de 4 filles. Infirmier en salle d'opération, il est également responsable d'une communauté chrétienne en Loire-Atlantique. Il est cependant important de souligner que des années de persévérance sont aussi souvent nécessaires pour voir les membres de nos familles venir à Christ. Même pour une personne qui nous est très proche, nous ne savons pas naturellement ce qu'il convient de demander dans nos prières, conformément à l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Si nous ne laissons pas le souffle de Dieu inspirer nos paroles, nous tomberons rapidement dans de vaines redites que Jésus identifie aux pratiques païennes, conformément à l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 7. C'est précisément pour cette raison que le Saint-Esprit veut être notre professeur. Il va accomplir avec nous et par nous, en vue de la conversion de notre prochain, un travail ordonné et progressif de libération spirituelle. Comment procéder? Exprimez au Seigneur votre disponibilité en vue d'une intercession pour telle ou telle personne, que nous appellerons Bertrand pour cet exemple. Faites silence et attendez avec foi une première pensée pour lui. Priez, plaidez, intercédez devant Dieu selon cette pensée, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement exposée. Si l'Esprit vous révèle un raisonnement rebelle chez Bertrand, vous pourriez vous exprimer ainsi. Je m'oppose par la foi et au nom de Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre à ce raisonnement d'incrédulité qui empêche Bertrand de voir son véritable état devant Dieu. Votre prière pourra avoir de nombreux prolongements, car Dieu vous conduira alors à arroser tous les aspects de la vie de Bertrand pour que l'incrédulité en soit déracinée et que la foi y soit semée. Ses lectures, sa situation professionnelle, ses amitiés et rencontres, ses rêves, ses souvenirs, ses préoccupations, ses échecs et réussites, ses frustrations, ses buts et bien d'autres facettes encore. Vous pouvez aussi vivre la même prière à deux, trois ou plus. Pourquoi ne pas essayer lors d'une prochaine pause au travail ou en classe? 15 minutes d'intercession spécifique dans la présence de Dieu peuvent se révéler plus efficaces que des années de prières vagabondes. 3. Usez de votre droit légal. Votre attitude sera totalement différente selon que vous alliez à la banque pour retirer votre argent ou pour y briguer une place de secrétaire. Dans le premier cas, sûr de votre droit, vous revendiquerez poliment mais fermement ce qui vous appartient. Dans le second cas, c'est une faveur que vous demanderez. Vous vous présenterez donc sous votre meilleur jour et ferez valoir vos atouts, surtout si vous êtes au chômage depuis 6 mois et que 20 autres personnes vous ont précédé et briguent le même poste. Le juste a l'assurance d'un jeune lion, nous disent les Proverbes, chapitre 28, verset 1. Nous sommes justes, car Christ a accepté de devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Il nous a justifiés et purifiés. Croyez-vous qu'il a fait du bon travail? Sans aucun doute. C'est le plus grand chef-d'œuvre de toute l'histoire de l'humanité, la seule raison pour laquelle vous et moi pouvons être pleins d'assurance. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que notre prière en faveur du salut est, elle aussi, parfaitement juste. Dieu le sait, Satan aussi, ainsi que les anges et les démons. Le passage du royaume des ténèbres au royaume de Dieu sera hautement favorisé pour celui qui bénéficiera de la prière d'un juste, d'autant plus si ce juste intercède non comme mendiant, mais conscient de ses droits. Prier pour la conversion d'un tiers est la chose la plus sage, la plus intelligente et la plus normale qui soit. Jésus est doublement digne de recevoir l'adoration éternelle de la personne inconvertie pour laquelle vous priez. C'est lui qui l'a créée, et c'est lui qui l'a rachetée. Pour elle, chaque jour qui passe, et qui devrait servir à la gloire de Dieu, est un jour que Satan dérobe par le moyen de la rébellion et du péché. Soulignons en passant que c'est aussi la raison pour laquelle nul ne peut abuser de la patience de Dieu en disant « Attendez, je veux encore vivre dans le péché 3 semaines, après quoi je me convertirai. » Considérons de près 2 passages parmi tant d'autres qui sont à la base de notre autorité dans ce domaine. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que l'existence et la vie leur ont été accordées. Apocalypse 4, verset 11. Je regardai encore et j'entendis un grand nombre d'anges. Il y en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Apocalypse 5, versets 11 et 12. Quand un être humain prie pour le salut d'un autre être humain, le diable et ses mensonges reculent, et les anges se mettent à l'œuvre. 4. Une prière fervente. Lors de mon second séjour en Côte d'Ivoire, j'habitais Mputo, un petit village situé à quelques kilomètres d'Abidjan. À l'époque, cette base pionnière de GEM était la seule de toute l'Afrique occidentale et nous n'étions que 6 équipiers. Le travail était varié, menuiserie, jardinage, plomberie et quelques activités spirituelles, mais l'évangélisation me manquait terriblement. Un lundi matin, je criai au Seigneur, lui disant mon désir de servir fidèlement et humblement dans toutes les obligations matérielles, mais demandant avec ferveur qu'il m'accorde le privilège d'amener une personne à Christ au cours de la semaine. 2 jours plus tard, alors que nous nous rendions à l'aéroport pour accueillir un visiteur, un enfant de 9 ou 10 ans commença à me harceler dans le hall d'arrivée pour cirer mes chaussures. Je n'avais ni les moyens, ni l'intention de le laisser faire, mais il ne voulait rien entendre et, muni de son attirail, il me suivait comme mon ombre. Il y avait là probablement des centaines de personnes de toutes nationalités, mais il avait choisi mes chaussures et aucune autre. Finalement, me souvenant de ma prière, je me demandais si cet enfant ne m'était pas envoyé par Dieu. Une brève conversation avec lui me le confirma. Il était plus que désireux de confier sa vie à Christ. C'est donc dans une atmosphère climatisée et dans les confortables fauteuils de l'aéroport d'Abidjan que Dieu m'utilisa pour être témoin de la décision de ce jeune garçon. Le lundi suivant, je refis la même prière. Aucune activité d'évangélisation n'était prévue, mais mon désir d'amener quelqu'un à Christ primait sur tout le reste. Je ne demandais ni la santé, ni des finances, ni quoi que ce soit d'autre, me concentrant uniquement sur l'objectif principal, le salut d'un être humain. Le mardi, un visiteur inconnu, âgé d'une 20aine d'années, se présenta à notre porte. Selon la coutume de là-bas, il venait simplement nous saluer. Je lui rendis son salut en lui annonçant Jésus-Christ. Il le reçut personnellement lors du 3e entretien de la même semaine. La semaine suivante, un alcoolique du village eut un songe et vint spontanément nous trouver pour mettre sa vie en règle devant Dieu. La 4e semaine, sa femme, à genoux, aux côtés de son mari, donnait à son tour sa vie à Christ. Une des grandes leçons de ce séjour de 15 mois là-bas se trouve dans ces 4 semaines où Dieu souligna pour moi cette promesse millénaire. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jésus a prié parfois avec de grands cris et avec larmes, conformément à l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. Si un enfant est en danger de mort, je ne peux pas en parler à ses parents en passant ou du bout des lèvres. Le sérieux de la situation m'oblige à la plus grande attention. De même, lorsque je m'entretiens du salut éternel de quelqu'un et de sa relation avec son Créateur et son Sauveur, la ferveur n'est que normale. 5. Une prière audacieuse. Alors qu'une grand-mère habitait en face d'un lycée de jeunes gens, Dieu lui mit à cœur de prier pour le salut d'un étudiant. Elle le fit avec persévérance, non sans ajouter « Seigneur, je te prie que, par ce jeune homme, des milliers d'autres soient sauvés. » Quelque temps plus tard, Georges Verwer se convertissait. Il avait alors 18 ans et devint le fondateur d'Opération Mobilisation. Avant les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, des groupes féminins entreprirent de prier nom par nom pour toutes les rues de cette métropole de près de 100 kilomètres de diamètre. Pendant les Jeux, quelque 11 000 chrétiens venus du monde entier furent reçus par 1 800 églises locales pour un gigantesque effort d'évangélisation. Plus de 1 000 personnes firent profession de foi chaque jour. Des athlètes de tous les continents et de bien des pays fermés entendirent la bonne nouvelle. Carl Lewis, quadruple médaillé d'or et roi de ces Jeux, donnait son témoignage de chrétien engagé dans un journal distribué en masse à la sortie du stade. Mais le témoignage le plus étonnant nous parvint d'un chef de police. Il nous dit qu'aucune mort violente n'avait été signalée durant les 15 jours des Jeux. Or, la moyenne journalière était de 48 tout au long de l'année. Pendant cette période, Los Angeles devint une ville sûre, alors que les truands en tout genre auraient pu profiter de l'aubaine que représentaient 3 millions de visiteurs exceptionnels. En réponse à la prière audacieuse de chrétienne, Dieu avait envoyé ses armées célestes dans les rues de la ville des anges, et son royaume avait grandi, tandis que les portes de l'enfer avaient reculé. Quand je suis né, mes 4 grands-parents étaient déjà morts. Mais par mariage, j'ai hérité d'une grand-mère fervente et audacieuse. Ses parents furent assassinés dans la tragédie arménienne, et elle devint, à l'âge de 11 ans, et dans sa propre maison, la jeune esclave des auteurs du génocide. Convertie à Christ, elle arriva finalement en France et se rattacha à l'armée du salut. Dès lors, elle ne cessa de prier pour son mari, qui se convertit, et pour toute sa famille. Aujourd'hui, 5 de ses 7 enfants, ainsi qu'un grand nombre de ses petits-enfants, sont ou ont été dans des postes clés au service du Seigneur. Plusieurs de ses arrière-petits-enfants marchent déjà avec Christ. À partir de la prière d'une jeune orpheline, esclave puis réfugiée, des dizaines de milliers de personnes, en France, en Afrique et ailleurs, ont été bénies. Elle avait saisi, comme Joseph en son temps, que la prière audacieuse peut changer la détresse et la déportation en salut pour toute une famille et une multitude d'autres. Le plus grand et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une personne non chrétienne est d'intercéder audacieusement pour son salut. 6. Une prière suivie d'obéissance. Ce chapitre serait incomplet s'il ne mentionnait le fait que le Saint-Esprit conduit presque toujours l'intercesseur dans des démarches pratiques. L'amour que Dieu déverse dans nos cœurs n'est jamais stérile. Il engendre dans la prière une abondance d'idées créatives. Nous préparions une campagne d'évangélisation pour une cité de 4 500 habitants en Suisse romande. Dans la prière, le Seigneur nous fit clairement comprendre qu'il ne fallait pas nous contenter des quelques 400 personnes qui viendraient aux soirées, mais qu'il fallait, comme lui, penser également aux 4 100 autres. Il nous inspira une stratégie en 12 points qui nous donna une autre dimension de l'évangélisation et de son amour pour tous. 1. Division en 22 secteurs de la cité, qui fut ainsi entièrement visitée. Sur 1 100 familles, 600 acceptèrent une excellente brochure, et 200 nous reçurent dans leur foyer. 2. Rencontre avec les personnes âgées. 3. Rencontre avec les catéchumènes. 4. Rencontre avec les élèves en cours de religion. 5. Films et animations pour les adolescents et les jeunes. 6. Évangélisation des enfants les après-midi. 7. Passage d'une équipe dans tous les restaurants et bistrots. 8. Article dans le journal. 9. Émission à la radio locale. 10. Plein air. 11. Contact dans la rue et littérature. 12. soirée publique pour tous. Retenons ce principe. La prière sans obéissance est stérile, mais la prière obéissante est source de salut et de vie. L'apôtre Jacques souligne magnifiquement cette vérité et la résume ainsi. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, conformément à l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Prière et évangélisation sont les deux rames de votre ministère personnel. Celui qui ne fait que prier finira par tourner en rond dans sa barque. Il en va de même pour celui qui évangélise sans prier, plus rare. Mieux encore, si votre groupe de jeûnes ou de prières se met à ramer de concert, votre avance pourrait ressembler à une compétition d'aviron. Résumé du chapitre 1. La Bible établit un lien direct entre prière et salut. Quand un être humain prie pour le salut d'un autre être humain, le diable et ses mensonges reculent, et les anges de Dieu se mettent à l'œuvre. Le plus grand et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une personne non chrétienne est d'intercéder audacieusement pour son salut. Les clés d'une prière efficace. Rien n'est impossible à Dieu. Faites des bouchées de foi. Renversez les raisonnements anti-Christ. Usez de votre droit légal. Offrez à Dieu une prière fervente. Offrez à Dieu une prière audacieuse. Offrez à Dieu une prière suivie d'obéissance. Question. Quels sont les non-chrétiens pour lesquels le Saint-Esprit me demande de prier fidèlement? Quel est le moment de la semaine que je consacrerai à cela? Quelles sont les bouchées de foi dans lesquelles je progresse? Nom, sujet, exaucement. Si je connais les personnes qui ont prié pour ma propre conversion, comment puis-je leur exprimer ma reconnaissance ?